dominent les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était donc les Régors, une parole anarchiste communiste. Chaque semaine, sur l'Écho du Gard de Montpellier, Canassu à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, et aussi sur les sites EC Libertaire et Le Chat Noir 51.
Ça mène toujours le doux refrain, orchestré par des hommes, matraque à la main.
Expulsion du terrain, l'avion décollera demain.
Mais on résiste, main dans la main, expulsons leur bande de pantins. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Leur bande de pourris, à la botte de Vinci, leur bande de technocrates, social-démocrates, sur nos terres, pas d'aéroports, pas de béton pour ces gros ports, habits de spéculation, ça réfléchit et tout pognon. Jamais ne nourrira nos gosses, face à vous, on restera féroce, l'heure est de retour à la terre. Expulsons leur bande de mensongères, expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende, expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Leur bande de lâches, soldats des mégalos, prêts à gâter des vaches à coups de tasseur et lacrymo. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes. Des sabres peuples et des curés, jusqu'à quand les gens de guerre tiendront le haut du pavé. On va rien lâcher, on plantera des patates, on se fera bouffer le moindre gramme d'asphalte. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Hors à vous, tout dangereux terroriste, armé de bon sens, de palettes et de vis, qui jette des poireaux à la figure, pauvres flics, tout proche de la bavure. Ici, tout le monde est solidaire, la ZAD tient bon, et ne lâchera pas l'affaire. Ici, tout le monde est solidaire, pour construire un monde sans leur bande d'actionnaires. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Quel est le trou duc de CRS ou de qui que ce soit d'autre dans les bureaux de Vinci, dans les bureaux de la préfecture, dans les bureaux des ministères qui est capable de se prendre en charge ce point-là?
Du coup, on va peut-être, ça va peut-être nous faire pencher vers, sur la question justement de l'organisation, mais si on prend les derniers mouvements en France, les dernières mobilisations, alors peut-être que pour vous, ce n'est pas les plus probantes, que ce soit 2010, c'est un cadre sur les retraites, le monde du travail. Si on prend 2006, le CPE en France, c'est le cadre aussi des contrats de travail et de l'emploi. l'employabilité des jeunes. Si on prend 2003, c'est les retraites. On peut espérer effectivement que d'autres cadres appellent à la mobilisation, mais j'ai l'impression que cette question-là du travail, elle reste quand même relativement centrale dans nos mobilisations, dans nos capacités.
Parce que quand on parle centralité, si centralité d'entendre que ça se finit toujours de la même manière, oui, ça reste central. C'est-à-dire que la mobilisation de retraite, on y était, dans les CPE, on y était. C'est toujours une joie quand même à voir émerger des forces hostiles à la gouvernance du capital, ça c'est certain. Après, je ne sais pas si éternellement attendre les prochains mouvements sociaux, genre les derniers mouvements de retraite, où c'est pas passé grand-chose, sauf une énième vérification que ces mobilisations-là sont calamiteuses, sont complètement entre les mains des syndicats jaunes, quoi. Donc, je ne sais pas s'il faut le regretter, si on va passer notre temps à se dire « Ah non, mais le travail, c'est important, regardez, si on veut avoir 150 000 personnes dans la rue, il faut quand même qu'il y ait un appel syndical qui tourne toujours autour de la question du travail. Peut-être, mais la réalité, c'est que ces appels-là ne conduisent à rien du tout, donc il faut bien inventer autre chose. C'est ce qu'ils ont tenté peut-être avec des formes compliquées, les assemblées grecques, espagnoles et américaines.
Mais d'ailleurs, ces deux exemples peuvent aussi nous montrer un peu ce qu'on appelle de nos voeux, parce que justement les mouvements autour du travail, quand les mouvements des retraites ou quoi, les forces en présence c'était surtout quand même les syndicats qui sont vraiment dans le jeu de la revendication entendable par le gouvernement, et que c'est vraiment pour le coup jouer le jeu de justement de pouvoir être lu par le capital et potentiellement intégré. Et en ça, même si ça n'a pas été un mouvement très fort, la grève des chômeurs qui a eu lieu il y a un an ou deux ans, je sais plus, peut-être trois ans, jouait le jeu de la non-opacité, au sens où jouait le jeu des revendications, de l'explicite, de etc. Mais c'était souvent des revendications irréalisables pour les autorités en face, c'est-à-dire que ça c'était visible. Ce qui était réclamé était visible, c'était pas un jeu de la clandestinité ou je ne sais quoi, mais c'était finalement affirmer cette rationalité irréductible, affirmer cette opacité, cette rationalité irréductible au capitalisme.
La critique que vous faites de ces mouvements-là, des retraites, CPE, etc., ça serait un peu toutes les attentes, cette espèce d'attente. Est-ce que c'est par ça que quand vous employez l'expression de mouvementisme, de ces mouvements qui sont mouvementistes, est-ce que c'est une critique de ces mouvements qui attendent en permanence le prochain mouvement politique, c'est ça ?
Je pense que la question, c'est pas de faire une critique, c'est la question de quelles impasses ça nous mène, hein, pas une critique, quoi. On disqualifie absolument, parce qu'on y participe, alors vous en disqualifierez, il n'y a pas homogènement dans ces mobilisations de moins en moins de masse, mais mobilisations quand même avec de foule. Voilà, quoi. Il n'y a pas de robots, on ne part pas du principe, c'est des crétins aliénés par les syndicats, etc. C'est qu'est-ce qu'on y fait là-dedans, et ce qu'on peut y faire, on constate que c'est plutôt des choses qui nous conduisent à des impasses, quoi. Y compris la logique un peu radicale, on s'y greffe et on radicalise certaines marges dans les manifs, hein, avec des affrontements avec la police, avec des destructions qui peuvent avoir lieu, des symboles de capital, il y en a, enfin tous ces des choses tout à fait louables, intéressantes, mais ça nous conduit aussi cette logique un peu de se greffer sur des mouvements, en attendant qu'en radicalisant des franges, on arrivera à mobiliser, enfin c'est un côté très avant-gardiste qui est un peu, parfois un peu dégoûtant, quoi. On n'arrivera rien à trouver un syndicaliste qui comprendra avec nous qu'il faut aller un peu plus loin que ce qu'il dit à son syndicat, ses sections syndicales, etc., etc. Bon, tout ça. Bon, mais par contre, il y a l'expérience des AG qui pour nous continue à être capitale. Dans quel autre endroit que dans une AG, on va trouver dans un plan d'égalité d'autres gens qui vont dire des choses avec nous pour composer des nouvelles formes d'intervention qui peuvent radicaliser les types de confrontations avec les syndicats aussi.
C'est une des, du coup, je vais employer des termes que vous employez, c'est pas une des critiques, c'est une des impasses, j'ai l'impression, des luttes politiques actuelles. L'autre impasse que vous mettez en avant, c'est la spécialisation militante. Qu'est-ce que vous entendez, du coup, par spécialisation militante ?
Ça, c'est notamment, j'ai l'impression, ce qui est beaucoup arrivé aux milieux radicaux les derniers temps, justement, avec quand même un affaiblissement des grands mouvements après le CPE, etc. C'est que il y a eu pas mal d'engagements dans des luttes que nous on appelle spécifiques ou que d'autres parmi nous appellent partielles, qui s'attaquent à un champ d'intervention, un champ de lutte comme le nucléaire ou les sans-papiers. Et finalement, souvent dans l'idée que c'est l'occasion de déployer des analyses plus globales, que ça a un lien avec une analyse plus globale du capitalisme, mais qui souvent cette analyse-là, elle reste simplement dans la tête des gens et elle apparaît pas du tout, parce que il faut faire exister déjà chaque petite lutte cas par cas, et que du coup souvent ça la puissance de critique globale qui est attendue dans ces luttes spécifiques, elle n'arrive pas à apparaître. C'est pour ça qu'on cherche aussi à trouver une forme de coordination, en tout cas de synthèse d'une manière ou d'une autre, de tous ces ancrages spécifiques de la lutte, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être contre le capital et de s'attaquer au capital comme quelque chose qui serait juste une idée, quelque chose qui serait juste quelque chose de très hors sol, très abstrait. C'est important dans cette spécifique. Ce qui est important, c'est bien que là, c'est des luttes qui se confrontent au réel des situations, au réel des militants de l'économie.
Non, c'est juste que c'est un peu... si on n'a pas réussi à sortir dans les textes de l'impression qu'on est en surplomb à notre tour à l'égard de ceux qui sont dans des champs d'intervention qui prennent pour cible certaines formes des gestions de population, lutte sans papier, de logement social, avec... des gens qui squattent. Si on ne sort pas, si les gens, si nous n'avons pas réussi à donner l'impression autre qu'on est en surplomb et qu'on dit bon, vous êtes vous dans des luttes spécifiques et donc c'est là, il y aurait quelque chose de raté. Ça c'est vraiment problématique. Ça fait débat entre nous, hein, ça a fait beaucoup débat entre nous aussi, comment on présente cette question-là pour ne pas être dans une position de disqualification à l'égard de ceux qui interviennent politiquement et interviennent. En général, là où il y a des bonnes raisons pour les faire, et là où nous sommes enracinés, et là où il y a des opportunités, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est problématique. C'est l'histoire du mouvement, c'est le mot fétiche qui vient tout de suite, un peu fétiche, un peu balise, un mouvementisme, évanementisme, je ne sais pas quoi d'autre, spécialisation militante, etc. Donc c'est plutôt toujours là encore, c'est que nous avons éprouvé nous-mêmes comme impasse, et qu'est-ce qu'il faut chercher de nouveau. Nous avons été très récemment, moi j'étais dans les luttes lorsque la vague des Tunisiens de Lampedusa sont débarqués à Paris avec une gestion absolument abjecte de la part de la mairie de Paris, hein, de la Noé Compagnie. J'ai été dans le mouvement de retraite, dans les franges dites radicales, etc. J'ai été dans toutes ces choses-là, donc pas plus moi que les autres. Je ne considère pas que on est complètement dans les néants en politique.
Si on fait l'analyse des impasses de ces formes de lutte-là et pas d'autres, c'est bien parce que ces formes de lutte-là, c'est elles qui nous intéressent et qui nous semblent avoir des limites, des impasses, mais c'est bien pour... on analyse ces impasses pour pouvoir continuer à s'en inspirer, continuer à les prendre comme héritage, comme matériau pour l'invention qu'on cherche, le type d'organisation qu'on cherche.
Est-ce que du coup, c'est dans cette idée-là que vous parlez de communauté de lutte, de nécessité, est-ce que la communauté de lutte, ça voudrait dire la nécessité de s'appuyer sur ces mouvements qui ont existé, la nécessité de les mettre en lien?
C'est une référence aux formes de clôture identitaire qui s'est produisent toujours dans ces marges de radicalisation de lutte, quoi. Mmh. On se retrouve, on tient quelque chose qui prend un peu plus de risques dans les formes d'affrontement avec les pouvoirs institués, quoi, par des formes d'intervention inhabituelles dans les organes syndicaux, des partis, organisations partidaires, etc. On prend un peu plus de risques. Et si on arrive à tenir et à porter un peu ces risques ensemble, c'est parce qu'on a des formes d'affinité, de camaraderie, de communauté politique qui s'installent et qui le permettent, parce que sinon... il faut des formes de confiance dans la collectivité pour agir politiquement. Bon, après le problème, c'est que comment ça s'est clos en lui-même, comment il y a une sorte de logique autoréférentielle qui est néfaste dans ces milieux groupusculaires, radicaux, etc. Donc il y a cette logique autoréférentielle qui qui rend impossible la liaison, qui rend impossible la composition. Donc c'est toute la question de prendre au sérieux des histoires de collectifs qu'on appellerait le comité, c'est la réintroduire aussi des formes de temporalité active. Les formes de temporalité active, ça veut dire qu'il y a tout un travail permanent des liaisons et des fabrications d'énoncés de co-appartenance commune à cette offensive antagoniste. Que ça se passe dans telle ville où il y a des pratiques avec des pratiques avec des personnes, des gens précaires, des militants activistes qui ont l'habitude, mais avec d'autres qui n'ont pas l'habitude, des familles qui sont dans la merde au logement et qui aient des actions d'intervention, des cantines en même temps, des squats, des maisons vides, des défenses des squats, et ça c'est lié avec des problématiques forcément souvent, des sans-papiers, ce sont les gens migrants qui sont le plus dans la merde au logement, etc. Bon, toutes ces choses qu'on sait tous. Qu'ailleurs ça se passe autrement, c'est comment on tient quelque chose dans la continuité et qui soit aussi la fabrication d'un camp ami de la politique. Et pour fabriquer un camp ami de la politique, il faut le vouloir. Là, c'est une question de volontarisme et de sortir de cette logique des camaraderies naturelles dans lesquelles on se raconte la même histoire. Et si on appartient à ces groupes-là, c'est parce qu'on peut se raconter la même histoire in aeternum. Et que c'est la raconter, c'est la condition sine qua non pour qu'on continue à être camarades dans ces groupes-là. Et ça suppose des formes d'exclusion très fortes de toutes sortes de discours, de pratiques ailleurs, parce que pour se fermer en tant que collectif dans l'histoire de l'identité, la caricature, on a été l'histoire de l'invisibilité politique, où plus on était dans l'invisibilité et dans la désidentification à l'égard des assignations de pouvoir, etc., plus on s'affirmait et on s'identifiait comme groupuscule anarcho-autonome, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose de complètement grotesque dans cette histoire-là que nous avons vécu nous-mêmes. Donc là, c'est quelque chose d'important pour nous de faire. C'est la question de la visibilité doit être conciliée avec la question de l'opacité, les deux. Parce que la visibilité, c'est la condition des formes de liaison égalitaire avec une politique de l'ordinaire. Il faut trouver des espaces pour. Donc, tous les gens qui nous racontent les fétichismes à l'Assemblée, c'est des procédures absolument épuisantes qui ne donnent à rien, c'est un espace, d'écologie politique catastrophique. On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres lieux pour fabriquer des espaces d'égalité. Si, dans des cafés, on peut discuter avec des rencontres, etc. Bon, mais formellement, politiquement, l'espace de l'Assemblée, pour nous, continue à être important. Voilà. En tout cas, il faut sortir des sortes d'auto-assignations, d'auto-références que nous ne supportons plus et que beaucoup de gens avec nous ne supportent plus.
Jusqu'à maintenant, dans les groupes politiques, pour le coup, des syndicats jusqu'aux plus radicaux, il semble qu'il faille choisir entre une politique basée sur la communauté de camaraderie et sur l'espérance de l'émergence de quelque chose, quoi, à partir de cette immanence des liens de camaraderie. Choisir entre ça et une politique qui est fondée sur une idée commune, une volonté commune, une forme commune, par exemple une organisation. Et ça nous semble être un choix absurde. Simplement quoi, et c'est que on dirait qu'il faut choisir entre le mollusque et la coquille vide, et que nous ce qu'on veut c'est faire un organisme avec un squelette qui est vivant et qui est articulé et qui a un squelette. Voilà.
Du coup, il y a cette volonté chez vous que ces comités soient quelque chose de vivant. Quand tu parles de squelette qui bouge, comment vous imaginez un petit peu la vie pour avoir ces comités en fait?
Précisément, c'est pas du tout, on n'y a pas encore tant pensé, mais en tout cas, c'est assumer ce qu'on a l'impression qu'il faut, c'est assumer une certaine dose de formalisme et de visibilité, c'est quelles sont les règles du jeu, quelles sont les idées sur lesquelles on est d'accord, par exemple, et que cet explicite-là, il serve. Aussi à ce que justement des gens qui participent pas au groupe ou qui voudraient rejoindre le groupe puissent dire là vous dites n'importe quoi, là ça va pas du tout, que justement la mise en le groupe soit se donne les moyens d'être mis en question de l'extérieur. Tu veux rajouter?
Je voudrais juste être là un peu plus confiant et plus optimiste et juste dire qu'en tant que collectivité, il y a un collectif qui existe d'apporter la rédaction de ces livres, mais qui aujourd'hui rassemble d'autres gens, qui constituent en tant que comité, et qui, au sein duquel il y a des gens qui participent, évidemment, à tout un tas d'initiatives politiques, depuis depuis des tentatives, c'est un peu les projets qui sont un peu en route, hein, des assemblées locales à niveau de là où nous habitons, hein, donc à la forêt, à fond, nommer les choses, qui portent beaucoup sur une réflexion aussi sur des formes d'autonomie matérielle, quoi, des formes d'autosubsistance, disons. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de poser ces questions-là? À partir d'un héritage de ces dernières années, où s'est passé tout un tas de choses, hein, qui sont, il est temps de faire un bilan un peu, hein, je pense, pour beaucoup de gens. Donc il y a ça, il y a aussi des gens qui participent au comité qui sont très investis dans le monde des chômeurs précaires à Rennes et qui projettent des initiatives dans les temps à venir qui porteront beaucoup plus sur la question de la précarité en général et sur la question des politiques d'austérité qui viennent et sur la situation là du coup beaucoup plus de gouvernance systémique quoi dans les vises de socialistes, hein, parce que ça certainement qu'on va assister à des tensions, hein, assez fortes parce que la situation économique en France va s'empirer, évidemment, comme il est arrivé en Italie, en Espagne. Bon, il y a des gens qui s'investissent sur ça, des camarades qui sont très investis dans les luttes anti-nucléaires. Il y a eu des événements ces derniers temps importants autour de l'INTHT. Et là, justement, dans un travail de composition, de réflexion, on se questionne ensemble comment donner une consistance commune à des choses comme ça, ou comment, pour l'instant, c'est pas trop possible. Mais c'est ça qui est un peu activé et sur lequel nous sommes, quoi.
Et ça demande aussi une grande attention à la vie des collectifs, aux relations, aux rapports, ce dont tu parlais au début, les rapports de domination qui peuvent exister dans les collectifs. J'ai l'impression que ça demande aussi d'assumer cet ordinaire-là, cet ordinaire-là des relations humaines. Et pas simplement avoir la tête dans la grande révolution qu'on va faire ensemble, mais voilà, de aussi renouer pour nous avec une certaine écologie des groupes, des relations. Okay.
Vous parlez d'un côté, donc dans cette dernière partie qui est assez courte, d'héritage toxique. Moi, ce qui m'a surpris, c'est pourquoi cette partie arrive à la fin, en fait. Et pourquoi elle n'est pas au début. On pourrait penser pourquoi tout d'un coup cette nécessité de revenir sur ce que le capitalisme nous laisse comme planète.
C'est un peu un débat avec des formes de révolutionnarisme qui nous racontent un peu des lendemains qui chantent où on pousse le capitalisme dans l'escalier. Non, c'est pas ça, mais... Des formes de révolutionnarisme qui imaginent que ce sera un tout autre, et j'ai l'impression si on prend au sérieux qu'on est révolutionnaire, il faut imaginer dès maintenant comment ce serait matériellement possible et qu'est-ce qui serait matériellement possible pour pas se raconter trop d'histoires. Et donc, si on se pose cette question-là, on en vient à se confronter à au fait que les structures qui ont été fabriquées dans un monde capitaliste, comme exemplairement les centrales nucléaires, quand bien même on destitue les pouvoirs capitalistes, elles seront encore là, par exemple. Et du coup, essayer d'imaginer, même si ça sera forcément, si ça arrive, ça se passera pas comme ça, parce que le futur nous dément toujours, mais essayer d'imaginer ce qui est possible, enfin, comment c'est possible d'hériter de ces éléments toxiques en développant un monde communiste. Comment on peut démanteler une centrale nucléaire, sachant que ça prend, je sais pas, des centaines d'années, sans rapport autoritaire, sans spécialisation. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut assumer voilà, c'est pour ces questions arrivent là. Quand on se pose la question de la réalité de ce qu'on espère.
D'accord.
Mais, oui. Je pense qu'il y a assumé, c'était assumé volontairement, il y a assumé l'aspect dérisoire, c'est-à-dire horizon post-capitaliste. Tiens, c'est pas peu quoi, hein, horizon post-capitaliste. Il y a assumé ce côté dérisoire, de penser dérisoire dans la politique d'aujourd'hui, de penser qu'est-ce que ça pourrait être un monde débarrassé du capital. Il y a pensé. Et ce qui semblait, par les moyens des parties de masse possibles il y a 70 ans, ne les semble plus aujourd'hui, parce qu'il était... Il était question des collectivisations, moyens de production, etc. Il y avait une pensée pratique de ce que ça serait, la réappropriation par la classe ouvrière de l'appareil d'épargne, et de la production sociale, etc. Bon, puisqu'on peut plus en tenir à ce schéma-là, il faut bien renouer à nouveau avec cet invraisemblable projet de penser un monde post-capitaliste. Hein. Donc, dans un petit livre comme ça, des 80 pages, c'est combien ?
96 pages.
96 pages, donc c'est pas très long à lire, c'est un petit pour le dire, 96 pages. Donc bon, mais une des questions qu'on s'est posée ici, c'est comment, à partir de ce qu'on fait aujourd'hui, comment on apprend à apprendre, comment à partir des choses qu'on fait aujourd'hui, on est en mesure de penser, qu'est-ce que ça serait la gestion de l'énergie, en effet, tout le dit bien, on a ça dans nos têtes aussi. C'est-à-dire qu'on a des pratiques de consommation, il y a des formes de sobriété. Il y a aussi à ne pas avoir peur de mots, les décroissants dans le milieu radical, c'est une horreur, c'est des crétins. Eh bien, les décroissants, ils ont posé aussi des très bonnes questions, c'est que ça veut dire inventer des formes de convivialité à partir desquelles on peut consommer autrement d'autres choses, et on perd le goût pour la prolifération d'objets, et on retrouve du goût pour d'autres choses plus sobres, etc. Bon, il y a tout ça à réinventer progressivement, ce qui pose immédiatement la question de la santé, quels sont nos rapports à nos corps, quels sont les rapports à ce qu'on a fétichisé comme les bien-être psychiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire les rapports aux médicaments? Qu'est-ce que ça veut dire les rapports aux drogues? En quoi une drogue, ça peut être aussi bien qu'un neuroleptique ou pas? Ça dépend. Quels sont les nouveaux agents qu'on invente? Et il faut là, du coup, on est dans des formes de micropolitique aussi à faire vivre. Comment on invente avec des gens qui ont des expériences collectives autour d'un certain nombre de choses, de nous, que ce soit des médecins, ou que ce soit des usagers malades, ou des usagers des drogues, ou des, je ne sais pas comment on invente une pensée progressiste, que ça pourrait être un monde post-capitaliste. Donc ça ne s'invente pas tout d'un coup. Et ce qui est évident, c'est que le monde c'était un monde de réseau globalisant qui a tissé emmailloté, au lieu de penser la planète entière, une forme oppressante. Donc il faut penser que ces réseaux-là, il faudra en faire quelque chose. Il faut être en mesure d'en faire quelque chose. L'énergie, les transports, on sait, dans un village, si on ne s'occupe pas d'une route, au bout de 4 ans, la route est impraticable. Donc dans une idée un peu fantaisiste des communes, il faut bien qu'il y ait des formes de coopération qui ne se réduisent pas à des petits villages autonomes, je ne sais pas, c'est des formes de coopération plus larges. L'échelle alimentaire, on ne peut pas complètement... ne pas y penser. On ne peut pas tout résoudre par des micro-expériences, des chances locales. Il faut penser ces choses-là. Il faut être en mesure de penser. Il faut inviter des gens à les penser. Sur les projets, c'est un projet sérieux. Ça peut être un autre monde, pluriel, avec des formes d'autonomie collective qui peuvent coexister et qui ont besoin de coopérer ensemble. Et ça pose tout un tas de questions écologiques, d'écologie de pratique entre les humains, dans nos rapports à des milieux, dans l'invention de nouvelles formes d'être avec d'autres êtres. Et tout ça, il faut s'y mettre dès aujourd'hui et cesser de jouer au nom de l'apocalypse, à se dégager de toute responsabilité dans la pensée de ce que c'est fabriquer un monde communiste aujourd'hui. Attention, moi je dirais.
Donc, merci Léna et merci Josette pour cette interview. Donc, Communisme, un manifeste, c'est publié aux éditions Nous. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Si vous souhaitez contacter les auteurs ou le collectif d'auteurs, je vous rappelle que donc là, on recevait Léna et Josette, mais il y a bien plus d'auteurs et de personnes qui ont contribué à l'écriture de ce manuel, ce manifeste. Un manifeste d'ailleurs aussi qui il y a eu des gros efforts, un travail d'écriture. C'est un texte court. Du coup, qui rend aussi, et je le dis pour les auditeurs, qui rend aussi le travail lisible, accessible et réappropriable aussi pour des formes de débat. On l'a vu là au travers de cette interview. Il y en aura sans doute d'autres autour de chez vous avec les auteurs. Pour les contacter, collectif pour l'intervention en un seul mot, donc l'email, c'est un email, collectif pour l'intervention, @riseup, donc riseup.net, riseup.net. Merci beaucoup.
À l'horizon, l'humeur est grise, et le ciel est toujours bouché. Je suis une enfant de la crise, j'ai fait mes armes à ses côtés. cadence. J'ai pris le temps de rêvasser, je crois. Je crois, j'ai perdu la cadence. Quand les murs se sont effondrés, nous avons cru pour un instant. Enfin, enfin, maître du monde, l'humilité de l'Occident.
Antoine, bonjour.
Bonjour.
Donc tu as travaillé à l'édition récente aux Nuits Rouges d'un livre qui s'appelle « Pouvoir ouvrier à Porto Marghera », sous-titre « Du comité d'usine à l'Assemblée régionale ». Ça se passe en Vénétie, donc dans la région de Venise. Ça couvre une période historique qui va de 1960 à 1980. Et le livre a été écrit par deux Italiens, David Sacchetto et Gianni Sbroglio. Alors je ne sais pas si je prononce bien.
Sbroglio.
Sbroglio, voilà. Alors c'est quoi ce pouvoir ouvrier? Ça nous renvoie à quelle période de l'histoire italienne?
Bien, d'abord, sur le cadre, il ne s'agit pas de la Venise pour touristes, avec la place Saint-Marc, le pont des Soupirs, la lagune et éventuellement la verrerie de Murano. C'est la partie du territoire communal de Venise sur la terre ferme, la ville, le quartier, l'arrondissement de Mestre, et celui annexe de Porto Marghera, dans lequel il y a une très importante zone industrielle, qui au plus haut, c'est-à-dire vers 1974, employait environ 45 000 salariés, principalement dans la chimie, mais pas uniquement. Et donc le livre est composé de trois parties. La première partie qui a été écrite par Gianni, c'est un récit historique et analytique sur ce qui s'est passé. 1960 parce que c'est la genèse et 1980 parce que c'est la fin, comme on pourra expliquer plus tard. Sachant le gros de l'activité visible de ce comité, c'est de 68 à, on va dire, à 77, et l'Assemblée autonome, c'est de 72 à 75. En plus, ce livre a quelque chose encore en plus, c'est qu'il y a un DVD qu'on peut regarder, mais pas à la radio, qui est un extrait trié d'interviews, de centaines d'heures d'interviews qui ont été conduites en 2007 auprès d'anciens militants et camarades impliqués dans ces activités politiques-là.
Alors, il y a deux livres qui ont précédé cet ouvrage, parce qu'on peut parler d'une sorte de trilogie sur l'autonomie ouvrière. Rappelle-nous les deux titres précédents.
Alors, le premier s'appelle « La Fiat aux mains des ouvriers », écrit par Marco Scavino et Diego Giacchetti, qui parle des luttes de l'année 69 à la Fiat de Mirafiori, la grande usine automobile de l'époque, et qui recense les luttes qu'il y a eu à partir du mois de mai 69 jusqu'à la signature du contrat des métallurgistes en décembre 69. Le deuxième livre, un peu moins connu, est celui d'Emilio Montasti, qui s'appelle « La Garde Rouge raconte » et qui est l'histoire du comité ouvrier de la Minetti Marelli, une entreprise de sous-traitance automobile, d'équipement automobile de la ville de Milan.
D'accord. Parce que là, l'originalité, entre guillemets, avec la Monte d'Edison, qui est un peu l'usine centrale de ce dernier ouvrage, c'est qu'on n'a pas affaire un ouvrier de l'automobile, un OS, etc. Non, là, non, il y a d'autres catégories sociales.
Oui, tout à fait. C'est un élément important à comprendre. Il y a une composition de classe différente puisqu'on travaille dans la chimie. Donc l'usine Montedison, comme tu l'as dit, est la plus grosse usine de cette zone de Porto Marghera. Grosso modo, il y a 3000 ouvriers, 1000 techniciens et 2000 ouvriers des entreprises de sous-traitance. Mais même les ouvriers sont en général qualifiés. Il y a très peu de manœuvres où c'est malheureusement évidemment ceux de la sous-traitance. Ou des entreprises d'intérim ou des micro-entreprises. La deuxième originalité, c'est que cette zone industrielle, les premiers travaux ont commencé en 1919 au sortir de la guerre, sous le régime fasciste, dans le cadre du desserrement industriel de l'Italie du Nord. La région de Venise a bénéficié d'investissements. Évidemment, le gros du développement se fait après la guerre, avec l'arrivée de la chimie notamment. Et donc, la Vénétie étant une région très pauvre, les nouveaux ouvriers sont des paysans. Donc il n'y a pas ou très très peu d'immigrés qui viennent du sud, comme dans les grandes métropoles comme Milan et Turin.
Quand on dit immigrés qui viennent du sud, ce n'est
pas... Des Italiens, bien sûr, oui, immigrés du sud. Et donc on a une composition de classe techniquement différente, une origine différente, c'est-à-dire pendant un certain temps, beaucoup de ces ouvriers qui viennent en bicyclette de la campagne vénitienne restent aussi exploitants agricoles sur des petits lopins. Et comme nous sommes à Nantes, il est bon de faire le parallèle avec les chantiers navals de Saint-Nazaire, où une grande partie des ouvriers étaient aussi paysans, ce qui permettait, quand les grèves devaient durer, d'avoir plus de chances de survivre. Mais par contre, quand il y avait des urgences de récolte, il y avait moins de monde pour participer aux grèves. Disons que c'est la réalité, effectivement, de début 50 jusqu'à 70, c'est une première génération ouvrière qui découvre la grande industrie moderne.
Alors il y a une chose qui me semble nécessaire de préciser assez vite, c'est on a parlé comité ouvrier d'un côté, la comité d'usine, c'est quoi, c'est une organisation, c'est un syndicat, c'est quoi? Ça faut expliquer précisément l'originalité de ce type de structure.
Je vous en prie, mon cher ami. Donc à partir de, formellement on peut dire du début 68, mais avec évidemment, comme le livre l'explique dans le cas de Porto Marghera, des prémices préalables, on voit l'apparition dans toutes les grandes usines d'Italie, quel que soit le secteur, sauf à la Fiat, où ça n'apparaîtra qu'en 69, en tout cas dans tous les autres secteurs industriels, l'apparition de groupes ouvriers de l'usine qui, en opposition ou à côté des syndicats et des partis politiques, se constituent en comité, c'est-à-dire que ce n'est pas la cellule d'usine d'un groupe politique, ce sont des camarades qui décident de prendre en main leurs affaires. Et on retrouve une communauté de revendications et d'actions partout. Pour faire simple, d'abord, augmentation uniforme pour tous, c'est-à-dire que pour empêcher les augmentations de pourcentage qui différencient l'échelle des salaires. C'est la suppression de la catégorie la plus basse et le passage automatique à la catégorie supérieure pour les ouvriers. Il faut savoir qu'à l'époque, en Italie, les qualifications ouvrières étaient divisées en 5 catégories, la première étant la plus basse. C'est la parité des avantages avec les employés. Dans le DVD, Lamberto Barida explique que, par exemple, les ouvriers avaient le droit à 12 jours de congé alors que les employés 30. C'est donc en termes de jours de congé, en heures d'arrêt maladie et en points de retraite. Après, évidemment, on est confronté, suivant les types d'industries, à des rythmes de production. Donc là, dans la chimie, il n'y a pas de chaîne, mais dans les usines, par exemple chez Pirelli à Milan, les cadences sont trop élevées, on les réduit nous-mêmes. C'est donc aussi, dès que les comités acquièrent une certaine surface, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mener des actions, ils ne sont pas... si je puis me permettre, au cul des syndicats, bien qu'ils participent aussi aux grèves syndicales quand il y a besoin, c'est d'appliquer le principe qui apparaîtra après, c'est que pour unifier les ouvriers, il y a aussi les ouvriers de la sous-traitance. Par exemple, ceux qui font le nettoyage, ceux qui font la cantine. Donc on demande systématiquement à ce qu'ils soient embauchés dans la grande usine de façon à bénéficier, entre guillemets, de conditions meilleures. Ce qui se passe aussi, c'est que les méthodes d'action, c'est un, les cortèges internes dans l'usine pour mettre en grève ceux qui sont un peu hésitants. C'est évidemment, à Fiat ça sera gigantesque, mais dans d'autres usines ça se pratique. Il y a aussi le principe de la refus de la délégation, c'est-à-dire que bon, si pour une raison technique un camarade doit être présent, les autres sont toujours autour. Les négociations ne se font pas en dehors de l'usine, elles se font dans l'usine de façon à que soit revue au-dessus de tout le monde. Sachant que par ailleurs, comme dans tous les pays, c'est les syndicats qui sont autorisés à poser leur signature sur un paraf. Mais néanmoins, diminuer les cadences, ça se fait pratiquement. Donc à partir de ça, les comités ont compris. Alors les noms sont très variables. Il ne faut pas y attacher plus d'importance. Ils représentent une même réalité. Les minorités ouvrières qui s'organisent visiblement et qui sont capables d'agir sur la situation.
Tu parles de minorité ouvrière ou de minorité gauchiste au sein de la masse ouvrière? Parce que
non, de minorité ouvrière, parce que dedans, suivant les entreprises et les régions, il y a des gens qui ont déjà une expérience politique, au PC principalement, et qui le quittent, qui en sont exclus, au PSUP, qui est le parti de gauche issu du PS. Mais c'est pas le problème, il y a des endroits, les gens n'ont pas de formation, ils sont uniquement membres du syndicat. Donc, c'est pas du tout au départ, comment dirais-je...
Des gauchistes qui s'intègrent dans une entreprise...
Alors par contre, effectivement, il y a des gens qui sont venus tractés depuis fort longtemps, à Marguera, depuis l'hiver 65-66, et qui, à force de patience, ont réussi à avoir des contacts avec les gens de l'intérieur. En ce sens, ils ont été les révélateurs de démarches individuelles ou semi-collectives qui avaient déjà eu lieu. Donc c'est pas du tout un greffon extérieur ou des établis, pas du tout. Donc là, l'autre chose, c'est qu'au départ, on peut dire que les extérieurs, qu'ils soient parfois aussi ouvriers d'autres usines, sont les révélateurs et les accoucheurs de ces structures. Et après, 69, la plupart de ces comités demanderont à créer des groupes politiques nationaux. Et puis après, les groupes politiques nationaux suivront une involution. Pour dire simple, l'OTA Continua, qui au départ s'est bâti sur le refus de la délégation, sur le refus de travailler dans les syndicats, sur le refus de se présenter aux élections, conviendra un peu après que finalement on peut être délégué dans le syndicat à la base, et puis qu'on peut non pas se présenter aux élections d'abord, mais appeler à voter pour le PC pour accroître les contradictions au sein d'un Paris bourgeois, puis à voter pour à se présenter aussi. Donc là, il y aura un deuxième temps où les militants de ces organisations dans les usines quitteront plus ou moins, ou même complètement, et recréeront une deuxième génération de comités qui a été mis en sommeil ou pas complètement. Donc c'est la volonté de partir, si je puis dire, par en bas, des besoins ouvriers, mais qui inclut évidemment l'organisation. Parce que quand on voit tout ce qu'ils ont été capables de faire à divers endroits, ça ne peut pas se faire sur un simple claquement de doigts. Donc pour dire, après, ces organes vont sortir de l'usine, fort de la capacité qu'ils ont acquis dans l'usine, et vont s'intéresser au transport, à savoir, c'est au patron de payer pour qu'on aille se faire exploiter chez lui, ou autrement dit, le temps de transport, c'est du temps de travail. Bon, les augmentations de salaire sont bouffées par l'augmentation des loyers. Donc on organise des comités de locataires pour exiger la baisse des loyers, on réquisitionne des logements vides, on s'intéresse aussi aux factures d'électricité, par exemple, et les camarades de Marguerin ont été capables pendant 2 ans, de faire auto-réduire plus de 300 000 factures. C'est-à-dire, en gros, les gens faisaient un chèque sur lequel ils mettaient le montant qu'ils considéraient juste. C'était stocké par le comité qu'ils déposaient sur un compte postal, visible par tout le monde. Et après, on allait négocier avec l'entreprise de l'EDF, on empêchait les coupures, on essayait d'organiser pour que ça baisse. Il y a aussi, évidemment, le prix de la... pour combattre l'inflation, qui est un moyen très utilisé en Italie à l'époque par le gouvernement et les patrons, on occupe les supermarchés et on fait des autoréductions. C'est-à-dire, soit on paye le prix politique. Alors, en gros, à Marguera, c'était pas de marchandises de première nécessité à moins de 1000 lire. Soit, on fait des expropriations, les gens sortent sans payer. Évidemment, pour faire ça, c'est pas à 3 blaireaux qui se pointent au supermarché du coin, qui disent « ouais, prix politique ». Ça demande une organisation, d'abord, pour définir l'objectif, et puis surtout pour assurer, sa protection vis-à-vis des forces de répression, parce que le but, c'est pas de se faire ramasser, c'est d'être efficace. Voilà, donc l'activité tous azimuts, et pour déployer une telle énergie sur une telle durée, il faut une organisation. Il faut des gens qui soient capables de penser leur lutte et leurs actions avant, pendant et après. C'est pas des luttes désespérées, c'est des luttes très conscientes, et seule une organisation peut le permettre.
Est-ce que tu peux nous faire un topo sur la nature de l'État italien à cette période? on a l'impression, si on connaît un peu l'histoire, c'est que l'Italie est un édifice extrêmement fragile en termes politiques, entre la démocratie chrétienne, la droite, le PCI qui est extrêmement fort, etc. Parce que comment un mouvement peut-il émerger comme ça, et c'est pas des groupuscules, c'est des forces qui sont agissantes, etc. Est-ce qu'on peut voir là une marque de la fragilité de l'État italien?
Je crois que c'est plus en conséquence qu'en initiateur de l'émergence. L'État italien est un État jeune. Il a été fondé uniquement en 1860. Donc il n'y a pas toute cette tradition jacobine de fonctionnaires de l'État comme l'État français qui remonte au Moyen-Âge, avec des vrais fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire qui pensent plus à l'État comme un interprète, quoi qu'on en pense,
de l'intérêt général
que des prévaricateurs qui se répartissent les prébendes. Donc l'État italien est un État faible. Le premier parti politique, l'Église, ne l'a reconnu qu'en 1929 officiellement. Pendant la guerre de 1943-1945, quand il y a eu la première chute de Mussolini, il faut savoir qu'un tiers de l'Italie a vécu sans État. Ça n'a pas duré longtemps, mais 5-6 mois. Après, quand il y a eu la vraie guerre entre les Allemands, les fascistes et la résistance, la sauvagerie et la violence a été conséquente. Après-guerre, pour beaucoup de partisans, quoi qu'on pense de ce qu'ils racontent, quoi qu'on pense de ce qu'ils voulaient faire, heureusement qu'ils n'ont pas pris le pouvoir, parce que le Cambodge aurait été certainement un peu plus près d'ici, mais il y a eu ce qu'on appelle le mythe de la résistance trahie. Le PC, la direction Togliatti, qui était réfugié en urgence comme Torres, est revenu avec la consigne que la révolution n'était pas à l'ordre du jour, qu'il fallait reconsolider l'État italien. Évidemment, il a dû payer de sa personne, faire convaincre aux partisans de rendre les armes, tout en ayant toujours un discours double. Et ça, les gens, évidemment, n'ont pas rendu les armes, les ont planquées, en disant « on va s'en servir ». Et si le PC a cette attitude, c'est pour bluffer les bourgeois, mais on est toujours pour la révolution. Bon, chacun les illusions qu'il peut, mais ça a créé un mythe, parce que, quand même, en termes de puissance, même si électoralement, aux premières élections d'après-guerre, il était juste derrière le Parti Socialiste, c'était 23 contre 25, il est devenu, dans les années 50 et 60, le premier parti d'opposition. Il monte en 68 à 28% des voix aux élections législatives, et il montera en 76 à 36% juste derrière la démocratie chrétienne. Donc, d'une part, du point de vue de la gestion politique, après la politique de Front National de la guerre, il y a la guerre froide, de la libération, pardon, il y a la guerre froide, et le PC passe dans l'opposition, et donc la démocratie chrétienne, qui est l'autre gros morceau, qui est monté jusqu'à 45% des voix, pour former des majorités, est obligé de faire alliance avec eux, des petits partis de droite et du centre. Ils tenteront même en 1960 de faire alliance avec le MSI, le parti fasciste reconstitué. Puis, parce que la démocratie chrétienne, c'est pas non plus un parti politique structuré et centralisé. C'est facile de faire un distinguo entre une droite, une centre et une gauche, mais ça existe quand même. La gauche étant représentée par Aldo Moro et Carlo Donat Cattin, qui était un des dirigeants de la centrale syndicale proche de la démocratie chrétienne. Et puis à droite, si je puis dire, on trouve Andreotti et Tambroni. Voilà. Donc le jeu politique est relativement bloqué. Le PC a gardé des places fortes dans les usines de certaines régions, mais plus à Turin. Il est très très faible en Vénétie, par exemple. Néanmoins, c'est un parti de masse. Il a dans la période creuse 1 500 000 adhérents. Et dans certains endroits que nous ne citerons pas, il ramasse 74% des voix aux élections municipales.
Et c'est un parti anti-stalinien?
Pas du tout. Ça, c'est une daube qui a été... Dieu sait que la France est productrice de daubes intellectuelles, mais l'Italie n'est pas mal non plus. Pas du tout, le PC n'était pas du tout anti-stalinien. La preuve en est, on sait aujourd'hui que le premier secrétaire d'un parti non du bloc de l'Est qui a envoyé un télégramme d'appui à l'intervention russe à Budapest, c'est Togliatti. Donc en surface, on peut essayer de faire un peu plus fin, et je pense que l'idée là, par contre, c'est l'adaptation de la réalité sociale et économique du PC face à la réalité italienne, en tenant compte d'un fait majeur aussi, qui n'implique pas, n'impacte pas les ouvrières, c'est quand même que l'Italie est le premier pays frontière avec le bloc de l'Est, même si la Yougoslavie était un jeu à terminer. Donc pour l'État américain, il était hors de question que l'Italie bascule dans un autre gouvernement qu'un gouvernement de droite. Donc maintenant, c'est le climat général. En revanche, le changement des modes de vie qui se perçoit dans les années 60, le fait que les syndicats répètent toujours la même chose, ne tiennent pas compte des revendications immédiates ou ne suscitent rien. Ce que les camarades disent, ça se passait bien pour eux. Ben, il y a quand même, en leur sein, parce qu'un parti avec 1 500 000 membres, il y a quand même, c'est pas un parti monolithique non plus, il ne faut pas croire. Par contre, il est au point de vue organisationnel très, très centralisé. C'est-à-dire que si même un dirigeant responsable d'une usine émet des critiques, il a beau être il est viré avec perte et fracas, et souvent avec fracas. Il y a eu une décantation au sein des partis officiels, parce qu'il faut bien que les gens sortent de quelque part. Alors, il y a une décantation, ça a donné les groupes Maustal, mais pour celles qui nous intéressent, il y a des militants ouvriers, là, Italo Sbrogio, qu'on est l'exemple type, c'est un gars qui a 31 ans, il est secrétaire de la section syndicale, il est au comité de fabrique à l'équivalent du comité d'entreprise, il est déjà conseiller municipal du PC à Venise, donc c'est le prototype du cadre ouvrier qui aujourd'hui, s'il n'avait pas fauté quand il était petit, serait sénateur à vie, dormirait à l'Assemblée à Rome. Mais justement, ce sont des militants formés avec suivant les endroits plus ou moins de jeunes qui veulent comprendre pourquoi les conditions de travail sont insupportables, pourquoi l'exploitation est ce qu'elle est, qui veulent partir de propres revendications. Et comme la discussion n'est pas possible au sein du PC, bah de facto, il faut qu'ils aillent ailleurs. Et ça tombe bien, puisque au même moment, ils rencontrent des extérieurs, des petits courants qu'on appelle opéraïstes en Italie.
Ça veut dire quoi, la traduction française?
Il n'y a pas de traduction française, monsieur. Ça ne se traduit pas. Ça ne passe pas les Alpes.
On dirait pas ouvriériste.
Non, ouvriériste en France, c'est péjoratif.
Oui.
Usiniste, qui se traduit en italien par fabriclisti, en plus c'est horrible parce que c'est pas ça l'opéralisme. Comme le dit très bien Giannis Brogio dans le DVD, on n'était pas des usinistes mais des opéralistes. Ça veut dire que pour nous l'usine n'est pas, bien qu'on essaie de comprendre comment elle est organisée, comment on participe au cycle productif, tout ça, l'idée est simple, c'est si on comprend bien le processus de production, on pourra frapper le patron au pire coup pour lui, au moindre pour nous. Il considérait l'usine comme le lieu de lutte où la classe se constitue, pour dire un gros mot, en soi, et comme un lieu de lutte, pas comme un lieu productif où il faut préserver l'emploi ou telle production ou telle autre, au contraire. Et donc ce courant, au départ, réduit à une revue qui s'appelle Les Quaderniers aussi.
Les Cahiers Rouges.
Les Cahiers Rouges.
Ça se traduit, ça, par contre?
Oui, ça se traduit, oui, ça se traduit. D'autant plus que Panzieri a pris ce titre en référence au Cahier Rouge du PSOP de Marceau Pivert. Donc ce courant, qui a pour but d'essayer de comprendre la situation, n'est pas un courant sociologique, c'est un courant militant et qui interviennent dans la mesure de leur possible à l'époque aux portes des usines. Et la mayonnaise prend. Voilà hier, on m'a posé la question, mais comment c'était possible? Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule raison, mais ce qui est vrai, d'une part, il y a une nouvelle génération ouvrière qui arrive à la surface, des jeunes principalement, c'est vrai, et qui commencent à avoir un autre regard sur la société, se trouvent des points de communauté avec des jeunes étudiants qui commencent à avoir les cheveux longs, écouter le même genre de musique, ça a l'air ballot, mais c'est... Et puis surtout les tracts qu'ils distribuent, bien que ça soit aux yeux d'aujourd'hui des pavés, c'est des choses qui parlent autrement de la condition, qui prennent toujours essayer de comprendre pour aller plus loin. Et ça a marché, hein. Ça a marché dans plusieurs endroits, et notamment à Porto Marghera.
On a parlé tout à l'heure de la composition de classe de l'usine, tu as parlé des techniciens. C'est vrai que dans les années 50-60, en France, il y a certains sociologues qui s'intéressent à cette nouvelle composition de...
Vous parlez de Serge Mallet, mon jeune ami.
Par exemple, Pierre Belleville, je crois aussi, Alain Touraine a dû faire des travaux là-dessus, en disant, si on ne fait pas attention, l'usine avec l'arrivée des machines, etc., le technicien va devenir bientôt majoritaire, et ce technicien, vu sa place dans les rapports de production, soit il va verser à gauche, soit il va verser à droite, soit il va être du côté des ouvriers ou du côté du patron, etc. Est-ce qu'il y a le même type d'analyse qui est généré en Italie pour essayer de créer des jonctions entre parmi les salariés?
Oui et non. Non, parce que si on reprend les catégories d'un célèbre barbu, il y a des couches ouvrières qui sont différentes, mais elles participent toujours à la production et sont, si on voulait creuser, mais pas aujourd'hui, producteurs de plus-value. Voilà, simplement, y compris les ingénieurs d'ailleurs, ça dépend. Il y a des ingénieurs qui sont purement, font partie du commandement hiérarchique de l'usine, donc là, ils sont de l'autre côté. Il y a des ingénieurs de recherche et développement, différents types, parce que le capital, il dévalorise en permanence la qualification. Le mouvement ouvrier traditionnel exaltait la qualification, comme on dit en italien, la professionnalité. Mais en même temps, la dévalorisation de la force de travail, c'est aussi un processus permanent. Donc pour les pour les opéralistes, il n'y avait aucun problème à intégrer ces couches-là, comme le dit la sociologie moderne, dans la composition de classe. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à eux que forcément il y a des accroches. Sauf que, comme c'était un phénomène nouveau à ce type massif en Italie, il n'y avait pas, comme en Allemagne dans les années 20, des employés qui ne voulaient absolument pas être comparés aux ouvriers, distinction col blanc, col bleu, parce qu'ils refusaient de voir que leur... Ils réagissaient à la mécanisation de leur travail, l'introduction des machines dans le travail dit de bureau date de ces époques-là, mais ils avaient un refus massif de se considérer comme des prolétaires. Ce qui explique pourquoi, face à d'un autre côté une propagande dans l'autre sens assez obtus, les considérer comme des ennemis, a fait que nombre d'entre eux ont constitué la base d'implantation des entreprises du parti nazi. Mais c'est une autre chose. Donc en Italie, il y avait bien sûr des ouvriers techniques, techniciens, qui ne se considéraient pas attachés, mais en minorité. Dans leur grande majorité, ils ont participé aux luttes, ils ont... Parce que dans une usine chimique, même si ça peut être le mec qui est dans le labo, mais c'est aussi des mecs qui sont sur la production, qui ont des actions techniques ou de maintenance. Donc le problème, c'est pas posé comme ça. C'est plus vis-à-vis de cette couche d'ouvriers qualifiés des anciennes usines, ou plus exactement des usines où le processus de production n'avait pas encore été ravagé, qui s'accrochent à la professionnalité, et c'est le PC qui le représente. On a discuté ce matin du livre de Bruno Trentin, secrétaire de la FIOM. C'est la défense 40 ans après. Il continue à dire qu'il fallait défendre la professionnalité et que les extrémistes se sont trompés et qu'ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Voilà, donc il n'y a pas cette chose-là. C'est parce que c'est en termes de développement économique de l'Italie, il n'y a pas encore eu la modernisation. Le poids de la machine dans les usines, par exemple automobiles, n'apparaît qu'en réaction aux luttes ouvrières. On peut même dire qu'à Mirafiori, s'il n'y avait pas eu le bazar en 69, il n'y aurait jamais eu d'atelier de peinture automatisé. Il faut bien dire une chose, c'est que les patrons n'ont pas de religion. L'important, c'est le profit. Si on peut faire du profit avec des vieilles bécanes, on n'en a rien à foutre du progrès en soi, de l'évolution technique. C'est uniquement par deux aiguillons, la concurrence, les autres capitalistes et la lutte ouvrière, qui sont forcés à révolutionner leur procès de production.
Nous unissons les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal-de-vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a un petit métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se tisser. Les gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était donc les Régas, une parole anarchiste communiste. Chaque semaine, sur l'écho du Grec de Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, et aussi sur les sites OC Libertaire et le Chat Noir 51.